Sur un grand rocher plat, au milieu d'une petite jungle que nous avons franchie, mon ami Jurgis et moi, remontant le cours d'un ruisseau, nous frayons un chemin parmi les fougères et les cabbage trees, ces palmes élancées qui, malgré leur nom, ne ressemblent en rien à des choux, et représenter la scène de la rencontre. De part et d'autre, d'un gros poisson qui pourrait bien être une baleine, se dressent d'un côté des hommes nus, bras levés en signe de peur, de surprise ou de menace. L'un tenant un boomerang, l'autre une lance, femmes et enfants plus petits. De l'autre côté, des occidentaux, qu'on identifie sans aucun doute à leurs casques, leurs bottes et leurs fusils. Certains debout, d'autres dans un canot à rames. Contrairement à beaucoup d'autres représentations aborigènes, on peut dater cette scène de 1788, année de l'arrivée de la première flotte et de la colonisation de la baie de ce qui allait devenir Sydney. La scène gravée sur le rocher rend compte du premier contact entre les tribus locales de Manly, au nord de la baie, les Kaimai et les Kanalgal, et les hommes blancs arrivés en reconnaissance sur leurs canots avec leurs armes et leurs vêtements. Sans doute quelques vivres et quelques papioles à échanger avec les indigènes auréolés de l'éclat mat du métal que les tribus locales ne connaissent pas. Car on oublie souvent que l'arrivée des colons blancs a marqué l'introduction brutale de l'âge de fer dans une culture de l'âge de pierre. L'artiste anonyme de Manly a dû graver cette scène avec un silex, pierre contre pierre, ou bien avec des os ou des coquilles dures. À moins qu'il n'ait emprunté dans un éclair de fulgurante intelligence d'adaptation un couteau à ses hommes harnachés de métal, et qu'avec cet instrument qui peut trancher, tailler ou tuer, il ait décidé d'inscrire sur la pierre son histoire, celle de sa tribu, le choc de la rencontre saisie par le fer et la pierre, les deux âges de notre humanité réunis. Bientôt, on le sait, le fer l'emportant sur la pierre, mais le rocher gravé, traversant les siècles, alors que le fer rouille, se tord, fond même, comme le montrent toutes les ruines de nos villes modernes. Sans le savoir, les hommes, les femmes et les enfants des tribus locales, habitants originels de ces rivages encore intouchés, entraient brutalement dans l'histoire et dans le flux contrôlé de notre calendrier. Une date comme janvier 1788 n'a aucune signification, n'entre dans aucune catégorie comme pour les indigènes. Un artiste ou un groupe d'artistes a pourtant compris l'importance cruciale de ce moment, ou plutôt l'a vécu avec tant d'intensité qu'il a voulu le saisir sur le vif. Rencontre stupéfiante entre les chasseurs-cueilleurs, inscrits dans un environnement familier et sacré depuis des millénaires, et les hommes blancs, débarqués de leurs canots, annonçant l'entrée dans une ère absolument nouvelle, dont les conséquences sont encore inconnues mais inscrites déjà dans les bras levés et les cris silencieux des hommes et des femmes debout près de leurs gros poissons, image tutélaire qui ne peut plus les protéger. Nous avons pour une fois le récit des premiers Australiens, si souvent muets qu'on a pris l'habitude de les regarder de l'extérieur, encore maintenant, avec un mélange de curiosité, de compassion et d'admiration pour leur résistance, leur impénétrable présence qui se maintient et qui nous observe avec la même inquiétude et la même méfiance qui se lisent sur le dessin si net du rocher de Manly. « C'est à nous que s'adresse cette scène, à Yurgis et à moi. Dans le présent de nos corps, silencieux, au milieu de la brume, qui perle des fougères, dans le silence d'un lieu qui ne semble pas avoir changé depuis plus de 2 siècles. Nous regardons la scène qui se déroule sous nos yeux, sous nos pieds, en une sorte de bande dessinée rupestre, animée par une vie qui se produit ici, au milieu d'une jungle presque urbaine, qui elle aussi a survécu. Protégeons cette œuvre comme un écrin, un musée à ciel ouvert, à quelques pas de la plage et du sentier où passent les promeneurs. Rien n'indique la présence de ce rocher, et d'après mon compagnon et mon guide, c'est volontairement que son existence reste cachée, pour la protéger des regards indiscrets et de l'inévitable déprédation des touristes. Ce lieu semble en effet tenu secret. Il n'est même pas mentionné dans les ouvrages que j'ai consultés, malgré son importance capitale. Je crois que mon ami l'a découvert par hasard, en se promenant. À moins qu'il n'ait été initié, lui, le poète lituanien, qui a fui la vieille Europe en ruine après la guerre, par un descendant de tribus locales ou par un ethnologue. Yurgis, qui a sillonné l'Australie comme ingénieur hydrographe et connaît ce pays mieux que nombre de ses habitants, devient à son tour mon initiateur, le plus respectueux arpenteur de ces terres fragiles et secrètes que je connaisse. Nous restons longtemps sur le rocher, dans le merveilleux silence de la forêt, tout frémissant de vie cachée et de pullulant. C'est un silence très ancien qui s'accorde à la scène muette et éloquente que nous regardons. Bras levés, hommes et femmes doivent crier, on voit leur bouche ouverte, ou bien chanter des incantations, proférer des menaces, invoquer les esprits protecteurs. Tandis que les Anglais, arrivant en canot depuis le mouillage de ce qui deviendra la première ville de la colonie, doivent s'exclamer dans leur langue incompréhensible, échanger des propos et des remarques, pas forcément agressifs, mais perplexes, et sans doute inquiets eux aussi. Impressionnés par la force et la beauté de ces hommes nus, ils ont nommé en leur honneur cette partie de la baie Manly, c'est-à-dire viril. Après tout, engoncés dans leurs uniformes, accablés par la chaleur de ce mois estival de janvier au février 1788, les matelots anglais, malgré leurs préjugés et leurs peurs, ont dû reconnaître, avant qu'elles ne soient détruites, la simplicité, la beauté de ces familles campant près des cours d'eau et des cascades. Malgré leur fatigue, leur peur, leur perplexité, capitaine, officier, simple matelot, et même les bagnards qui comprennent lentement que leur sort désormais serait lié à celui de leur gardien dans ce bout du monde idyllique et menaçant, tous ont dû entrevoir une vie absolument dégagée de la leur, une existence mystérieuse et simple qui s'est poursuivie sans eux. Et depuis plus longtemps qu'aucun d'eux ne peut même en avoir la notion. Le plus obtus des soldats a dû avoir la vague intuition que quelque chose de très ancien et de très frais se vivait là, sous ses yeux ignorants et ébahis, et que la fragilité de ce moment d'étonnement réciproque le rendait encore plus précieux. L'interruption majeure, irréversible, provoquée par l'arrivée des Occidentaux dans le cours de l'existence jusque-là préservée des autochtones, a dû être ressentie par tous, hommes blancs et indigènes, à des degrés différents, chacun très vite repris par la nécessité de survivre et par l'aveuglement de ses préjugés. Mais ils ne savent pas encore, les hommes et les femmes dressés, de part et d'autre du gros poisson, que la guerre pour la survie va commencer. Saisis qu'ils sont dans la surprise réciproque de leur rencontre. Cette baleine que l'on voit gravée sur d'autres rochers, parfois le ventre rempli de petits poissons, représente à la fois la force brute de la nature et sa protection. Ici, présence totémique et propitiatoire qui devrait tenir à l'écart le danger et maintenir le lien profond des tribus indigènes avec le cosmos.